BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. C'est un début de semaine un petit peu agité. On parlera des retraites avec cette manifestation des professions libérales qui s'insurgent contre le système universel voulu par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un risque, en l'occurrence, d'agrégation des colères? On en parlera avec Bernard Sananès qui est déjà en studio avec nous. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Politologue, président du cabinet du Conseil. Et là, on parlera aussi, bien sûr, de l'impact du prix de l'essence. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français? Et on en parlera avec Jean Rabhi, qui est le directeur général de Natixis Investment Manager. Avec lui, bien sûr, on parlera de ces dissensions au sein de la Banque Centrale Européenne du jamais vu. Et puis, je recevrai Philippe Ries, ancien directeur de l'AFP à Tokyo. Il rentre tout juste de Tokyo. Il a passé une dizaine de jours et de longs moments avec Carlos Ghosn. Il nous dira un peu ce qui se passe du côté de Nissan et de Carlos Ghosn. Mais pour l'instant, on passe à l'actualité avec Thomas Asportas. Le retour. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est bien sûr le pétrole qui fait la une de l'actualité depuis 48 heures. Le pétrole qui bondit en bourse après les attaques de drones contre les installations pétrolières d'Aramco. Guillaume Samra, bonjour.
Bonjour.
Le pétrole gagne plus de 7% sur les marchés et beaucoup de valeurs sont impactées depuis
ce matin. En effet, c'est vrai qu'une variation comme ça sur une journée, 7% actuellement et même 10% de hausse un peu plus tôt ce matin, c'est une variation qu'on n'avait plus vue depuis la guerre du Golfe quand même. Donc cette variation sur aussi peu d'heures, c'est assez rare pour être souligné. Pour autant, on est sur des cours qui restent assez raisonnables. On est à $66 actuellement sur le Brent, quasiment 60 sur le WTI. On partait de niveaux relativement bas et donc il n'y a pas de tension spécifique de voir ces cours du pétrole progresser sur les niveaux actuels. Ça reste tout à fait supportable par l'économie. C'est ce que l'économie mondiale, c'est ce que nous explique la plupart des experts. Néanmoins, il y a aussi un impact sur les valeurs pétrolières. On pense à Total ou à TechnipFMC qui saignent aujourd'hui les plus fortes hausses du marché parisien avec les cours qui montent. TechnipFMC gagne plus de 5%. Total gagne plus de 2,5%. Puis à l'inverse, l'aéronautique, le tourisme en pâtissent. On voit l'aéronautique et le tourisme signés parmi les plus fortes baisses du jour. EADS, Airbus, pardon, puisqu'on l'appelle Airbus aujourd'hui.
Oui, ça a changé quand même depuis quelques temps.
C'est vrai, vous avez raison. Eh bien, Airbus aujourd'hui abandonne 2,5%, c'est la lanterne rouge du marché, Thomas.
Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, par ailleurs, sur le fond de l'affaire, les rebelles yéménites ont affirmé dans la matinée qu'ils pourraient, je cite, attaquer à tout moment à nouveau les autres installations pétrolières d'Aramco. Les États-Unis, qui accusent l'Iran d'être derrière ces attaques, eh bien, se disent, eux, prêts à riposter très rapidement. Et puis, une conséquence très concrète, vous en parliez, Edwige, de cette attaque pour les particuliers, eh bien, c'est que les prix à la pompe devraient augmenter très rapidement de 4 à 5 centimes. C'est en tout cas ce que vient de déclarer l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Et puis, il y a d'autres valeurs, vous en parliez, Guillaume, qui sont secoués depuis ce matin sur les marchés français, eh bien ce sont les titres liés aux tensions commerciales avec les États-Unis. Les entreprises exportatrices du luxe et de l'aéronautique sont toutes sanctionnées après des informations selon lesquelles l'OMC a approuvé une demande américaine de nouveaux droits de douane sur les produits européens dans le dossier des aides publiques au secteur aéronautique. À la mi-journée, Airbus est la plus forte baisse du CAC. Sur le front du Brexit, Boris Johnson est à Luxembourg aujourd'hui pour déjeuner avec Jean-Claude Juncker et Michel Barnier. Le Premier ministre britannique affirme que les contours d'un accord sont désormais très clairs. Les Européens, eux, ne partagent pas cet avis. Disent toujours manquer de concret et n'avoir pas de raison d'être optimiste, d'après Michel Barnier, avant ce nouvel entretien. En Chine, on a un nouvel indicateur qui témoigne du ralentissement de l'économie. La production industrielle n'a progressé que de 4,4% au mois d'août. C'est la croissance la plus faible depuis 17 ans. Les ventes au détail, elles aussi, ont progressé moins fortement que prévu le mois dernier. Retour en France et après la RATP vendredi, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit aujourd'hui avec dans la rue plusieurs corps de métier peu habitués à manifester, les avocats, les médecins libéraux ou encore les hôtesses et les stewards qui défilent tous contre le passage à un régime universel. Ils dénoncent, je cite, le projet de captation sans sommation de leur régime autonome de retraite et ils craignent d'être parmi les grands perdants de la réforme. Et puis pour finir, c'est aujourd'hui que le tribunal de commerce d'Evry se penche sur les offres de reprise pour Aigle Azur. Son porte-parole, Guillaume Foucault, a affirmé ce matin à votre micro Edwige qu'une demi-douzaine de repreneurs seraient au tribunal aujourd'hui, que rien n'est joué. Deux projets toutefois semblent se détacher. D'abord, l'offre combinée d'Air France et du groupe Dubreuil qui possède les compagnies Air Caraïbes et French Bee. Et puis sinon, ce serait une offre d'un transporteur étranger, en l'occurrence EasyJet. BFM Business midi 4, on file sur les marchés à la mi-journée. Je vous redonne le CAC 40, le CAC qui recule à la mi-journée, qui cède un petit peu de terrain. Le CAC abandonne 0,70% à 5615 points. Et l'euro-dollar, quant à lui, eh bien, recule un petit peu aussi. On abandonne 0,19%. Un euro s'échange pour $1.1061.
Merci Thomas. Bien sûr, on vous retrouve à 12h30 dans un instant. Un peu la question du jour, justement, retraite. Est-ce qu'il y a un risque un peu d'agglomération de toutes les colères qui sont sous-jacentes en France?
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Bernard Sananès est donc avec nous. Bernard, vous êtes politologue, président du cabinet de conseil. Et là, bien sûr, est-ce que lorsque on va parler des retraites, parce que c'est intéressant, on voit bien que c'est en train de bouger les mentalités, enfin, il y a une sorte d'inquiétude qui est en train de monter. Juste un point, Vous avez écouté ce qui se passe, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, les conséquences sur le prix du pétrole et indirectement, bien sûr, le prix du pétrole à la pompe. Moi, je dis, il faut rester prudent, mais en l'occurrence, ça, c'est pas très bon pour cette rentrée. Ça peut être le grain de sable qui fait un peu tout déraper.
Oui, en tout cas, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour la situation internationale. Vous l'avez dit, mais c'est aussi, bien sûr, une mauvaise nouvelle pour l'exécutif. C'est un sujet extrêmement sensible. On l'a vu au moment des gilets jaunes. Et puis, c'est un sujet qui, alors vous avez dit, il faut être prudent sur les répercussions, mais c'est vrai que cela va assez vite et que ensuite une augmentation à la pompe, les Français s'en rendent compte toutes les semaines quand ils font le plein. Donc c'est quelque chose qui revient avec de la récurrence. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce réflexe pour une partie de l'opinion de dire, bon, c'est peut-être dû à cause de la situation internationale, ouais, mais pendant ce temps-là, le gouvernement pourrait au moins diminuer les taxes. Donc il se retourne toujours, même s'il y a bien sûr une appréhension de la situation internationale, il se retourne toujours vers l'exécutif en lui demandant comment il compte accompagner cette détérioration des prix de l'essence. Donc oui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'exécutif.
Juste une contradiction. Contradiction supplémentaire des Français, taxe carbone en l'occurrence, pour vous, hein, de votre point de vue, hein, Bernard Sananès, c'est impossible que le gouvernement reparte sur une taxe carbone. Or, il y en a plusieurs, plusieurs personnalités ont appelé au retour de cette taxe carbone.
Aujourd'hui, dans le contexte politique et social que l'on traverse, avec des tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, cela semble très, très risqué. Ouais. Non pas que les Français ne soient pas convaincus qu'il faille faire, non pas des gestes ou des paroles, mais de l'action en matière environnementale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils demandent là aussi à être accompagnés et qu'on leur dise comment ces gestes vont pouvoir, s'ils ont un coût financier, être compensés. Autrement dit, quand il s'agit de gestes du quotidien, de gestes, je ne veux pas dire gratuits, mais en tout cas de gestes qui n'engagent pas sur un plan financier, on le voit bien, sur le tri, sur le recyclage, il y a beaucoup d'évolutions. Par contre, quand il y a un impact financier, la tension sur le pouvoir d'achat est telle qu'aujourd'hui, ça apparaît extrêmement périlleux pour l'exécutif.
Maintenant, risque de fraude sociale avec les retraites. Donc, pendant que nous parlons, il y a les avocats, de très nombreux avocats en l'occurrence, des médecins, des pilotes, des hôtesses qui défilent justement contre cette réforme de retraite avec ce système universel, alors qu'eux ont des systèmes autonomes en disant un, c'est l'État qui nous a dit de créer ça, c'était il y a quelques années bien sûr, et deux, nous avons bien géré ça et l'État qui a mal géré maintenant veut nous reprendre absolument tous nos droits, en plus avec des hausses de cotisations énormes pour les avocats, je ne peux pas y croire, passe de 14% à 28%. Est-ce qu'il y a un risque d'agrégation de ces colères, d'addition de ces colères?
Alors d'abord, ce qu'il faut dire, vous avez dit que c'est vrai que ces manifestations étaient assez inédites pour ces professions libérales. Il faut aussi préciser, sur un plan de la sociologie politique électorale, c'est que ce sont souvent des électeurs d'Emmanuel Macron. Et donc, bien sûr, ça peut avoir des conséquences très fortes sur le plan politique. Et autre paradoxe, qui ne manque pas de sel, quand il y a quelques semaines, jusqu'il y a quelques semaines, on demandait aux Français qui étaient les plus favorables à la réforme des retraites, ce sont ces cadres et ces professions libérales, conscients qu'il faut bien faire bouger le système qui y était favorable. Mais c'est vrai que là, on se rend compte aujourd'hui qu'en ouvrant ce qui apparaît un peu comme une boîte de Pandore, c'est vrai qu'une boîte qui en tout cas était assez opaque pour beaucoup de gens, on voit bien que le risque, c'est que plusieurs types de mécontentements s'expriment. Maintenant, pour répondre directement à votre question, est-ce que ces mécontentements peuvent s'additionner entre eux? Il y a beaucoup de différences entre le mécontentement d'un agent de la RATP qui plaidait la semaine dernière
vendredi. Mais incroyable, quand même.
Et ceux qui manifestent aujourd'hui. Donc, est-ce que tout ça peut coaguler? Franchement, personne ne peut faire aujourd'hui de la météorologie sociale, mais on voit bien, c'est pour ça que vous avez raison de rappeler l'événement sur le pétrole ce week-end, on voit bien qu'il suffirait d'une étincelle. Je crois plus à la théorie de l'étincelle plus qu'à celle de la coagulation, pour tout vous dire.
Oui, mais vous savez que c'était Jean-Michel Rocard qui disait, avec une réforme de retraite, il y a de quoi faire sauter un gouvernement. Là, c'est une grosse réforme des retraites, donc il y a vraiment de quoi faire sauter, je ne sais pas, je vous pose la question, d'un gouvernement.
C'est une grosse réforme des retraites, et en même temps, on voit bien que l'opinion n'est pas encore cristallisée sur le sujet. D'abord, c'est un projet de réforme, le texte n'est pas présenté, on discute les conclusions et les hypothèses.
Oui, mais là, on a l'impression que les gens... Pardon, je vous interromps, mais on a l'impression que les Français commencent à dire, mais finalement, ça va me concerner directement, bientôt. Enfin,
c'est vrai.
Vous voyez, il y a une espèce de fébrilité qu'on ne ressentait
tout à fait
pas.
Raison. Et là, il faut savoir lire les sondages. C'est vrai que jusqu'à présent, ce qu'on demandait aux Français, c'était de juger le principe des réformes. Et donc, déjà, il y avait plus de personnes qui se disaient défavorables, mais on était était à 45% défavorables, un tiers favorable et 25% qui ne savaient pas. Mais c'était sur le principe. D'ailleurs, quand on demandait aux gens quel est le principe qui vous apparaît le plus intéressant dans la réforme, c'était justement cette idée d'équité. Mmh. Mais comme toujours, il y a une forme de paradoxe, certains diront de schizophrénie, on est pour l'équité tant que ça ne nous concerne pas directement. Deuxième point, il y a, c'est vrai, le sentiment que le gouvernement n'avait pas forcément tout dit au début quand il a ouvert ce chantier. Et là, c'est un enjeu très important parce que s'il y avait une perception d'un manque de sincérité, de transparence sur les objectifs de la réforme, là, ça pourrait incontestablement créer un fort mécontentement.
Alors, peut-être encore deux, trois éléments. Bon, donc la boîte de Pandore, elle n'est pas encore ouverte, si j'ai bien entendu ce que vous venez de nous dire. Il y a aussi cette question de savoir si est-ce que ce n'est pas la réforme qui va étouffer, tuer toutes les autres réformes, notamment la réforme de l'État, même voire la PMA. Même, regardez, Gérald Darmanin, dans son budget, qui met en avant le fait que, selon nos confrères des Échos, il y a 9 milliards d'économies d'impôts, ça a plus de 20 milliards ou près de 20 milliards de prélèvements obligatoires en moins. J'avais dire, les Français vont pas le voir passer parce qu'ils vont se focaliser sur les retraites.
Ah, c'est deux choses.
Leur retraite.
C'est deux choses différentes. C'est un, l'impact des mesures déjà prises. Et c'est vrai qu'on est étonné que le gouvernement fasse assez tardivement, finalement, le service après-vente de ces mesures. Ouais. Parce que quand on interroge les Français sur est-ce que votre situation en matière de pouvoir d'achat a changé ou en matière d'emploi ou d'impôts, les réponses, pour l'instant, sont très partielles. Voire une majorité de Français continue de dire non.
Oui, mais quand on va toucher à votre retraite, ils vont se dire oulala, vous connaissez bien l'impact psychologique que ça va avoir.
C'est un impact très important qui concerne bien sûr tout le monde, y compris, on voit bien dans les enquêtes, les jeunes actifs se sentent très concernés quand on leur dit on va travailler plus longtemps. Mais, et là on revient à faire un peu de politique, la promesse avec laquelle Emmanuel Macron ne peut pas se déjuger, c'est la promesse de réformer. S'il arrête les réformes, à ce moment-là, il perd dans l'opinion le soutien de cet électorat qui, on l'a vu aux européennes, ne lui a jamais fait défaut, le soutien de son électorat de premier tour et le soutien d'une partie de l'électorat de droite. Donc, il faut bien doser. On voit bien que c'est ce qu'il a essayé de faire, notamment dans son interview de France 2 où il a fait un petit changement de pied sur la durée de cotisation. Mais l'idée, la volonté réformatrice, ça reste toujours pour son électorat le terreau du macronisme.
Juste, il y avait ce week-end une tribune de Nicolas Mavrez, qu'on connaît bien ici sur BFM Business, qui disait Macron 2 ou Chirac 3 ? Oui, avec un point d'interrogation. C'est excellent, je trouve. Il y a ce risque-là, un peu d'immobilisme, parce que là, on a...
Il y a ce risque-là, et certains, vous voyez, diront que la réforme des retraites, pour autant, est une réforme structurelle. Mais où je vous rejoins, c'est vrai que pendant 3 mois, 6 mois, en tout cas jusqu'aux élections municipales, il semble compliqué pour l'exécutif de lancer d'autres chantiers. C'est vrai que ça va y compris...
Là, vous avez quand même les retraites, la PMA...
Oui, alors, la PMA est un sujet, un débat de société. On n'observe pas, pour l'instant, il faut être prudent, la même mécanique d'opinion qu'au moment du débat du mariage pour tous. On le voit bien, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la société française aujourd'hui, les questions sociales, les questions liées au pouvoir d'achat, les questions économiques devancent les questions de société.
Oui, ça c'est clair. Le dossier des urgences, ça y est, il est éteint. Parce que la dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez expliqué que justement les urgences étaient vraiment en tête des préoccupations des Français pour cette rentrée, donc forme d'inquiétude, ça cristallisait les inquiétudes.
Et on a prolongé, vous voyez, ces investigations, et on voit qu'il y a trois thèmes aujourd'hui qui apparaissent prioritaires chez les Français, et c'est assez nouveau, la santé... Le pouvoir d'achat, ça ce n'est pas nouveau, et l'environnement. Donc ce trio, d'ailleurs sans doute avec un lien que fait une partie de l'opinion entre santé et environnement. Est-ce que la crise est réglée ? On voit bien qu'il y a encore des mouvements, il y a encore des collectifs qui sont rentrés dans ce mouvement. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit terminé. En tout cas, ce mouvement garde une vraie sympathie dans l'opinion, ce mouvement des urgences et des professionnels. De
prochaine étape, élection municipale, bien sûr, 2020, avec prochaine étape, les élections municipales de 2020, avec Marine Le Pen qui dit en fait c'est la première étape vers l'élection présidentielle. Ça se joue comme ça ou on est en train de se faire un film parce qu'on aime bien se faire peur?
Non, mais d'abord ce sont les premières élections du mid-term comme on dit, donc on aura passé la mi-mandat, ça aura une signification. Je rappelle quand même que ceux qui disent que ce sont que des élections locales, c'est pas tout à fait le cas. Il y a une double dimension, il y a une dimension municipale, on juge son maire.
Oui, qui va être importante là en plus.
Importante, mais on se souvient du dernier mouvement en 2014. 2014, la droite a gagné plus de 50 villes de plus de 30 000 habitants, et c'était d'abord un mouvement de défiance vis-à-vis de François Hollande et du quinquennat qu'il conduisait. En 2008, il y a eu aussi ce mécontentement moins fort vis-à-vis de l'équipe Sarkozy. Donc il y a toujours une dimension nationale. Est-ce que cette fois-ci, parce qu'il y a Emmanuel Macron et En Marche qui perturbent les lignes, parce que les partis politiques ont moins la cote, est-ce que ces municipales vont être plus difficiles à lire? Sans doute. Mais pour le Rassemblement national, il y a bien sûr un enjeu, c'est de desserrer l'étau, de montrer qu'il peut gagner. Et finalement, Marine Le Pen a fait un très bon score aux européennes, elle s'est qualifiée au second tour de la présidentielle, mais au niveau local, elle reste sur deux échecs, les régionales et les départementales, où elle n'a pas réussi à conquérir d'exécutifs locaux.
Allez, un mot, on fait un petit peu d'histoire, mais c'est intéressant quand même, parce qu'aujourd'hui, le 16 septembre, c'est l'anniversaire du 16 septembre 1969, avec Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, qui prononçait ce fameux discours fondateur un peu pour la chose politique que vous maniez si bien sur la nouvelle société. Il cherchait une société qui soit faite de gens plus jeunes, plus qui réussissent mieux. J'ai envie de dire, on a presque l'impression que ce sont des mots qu'aurait pu utiliser Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, avec le succès, c'est Jacques Chaban-Delmas des années
le succès,
70.
Le succès politique, peut-être, puisque Jacques Chaban-Delmas a échoué à l'élection présidentielle de 1974. Mais est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, a convaincu les Français qu'il réussissait à transformer le pays, qu'il réussissait à tenir cette promesse qui était aussi d'oxygéner, de simplifier, y compris le rapport à l'État, le rapport à l'administration? Pour l'instant, je crois qu'on n'en est pas là.
Mais est-ce qu'on... Alors, il reste zéro seconde. Est-ce qu'on peut dire quand même Mendès France, Chaban-Delmas, Macron, c'est un peu la même genre de lignée, ou c'est un peu trop tôt?
Je trouve que c'est un peu trop tôt pour l'instant.
Voilà, comme ça c'est dit. Ben, vous revenez nous voir en tous les cas d'ici là. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera de Carlos Ghosn, de Hiroto Saikawa qui doit démissionner aujourd'hui, avec Philippe Ries, l'ancien correspondant de l'AFP à Tokyo, qui connaît très bien Carlos Ghosn, qui a passé plusieurs heures avec lui, et il nous dira dans quel état d'esprit il est, et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer du côté de Nissan et de Renault. À tout de suite.
Bientôt sur BFM Business, Impact PME avec Philippe Bloch.
Impact PME, c'est l'association de la CPME et de BFM Business pour 3 mois d'émissions hebdomadaires diffusées sur notre antenne, mais aussi bien sûr un grand événement inédit le 5 novembre prochain au Conseil économique, social et environnemental qui réunira 3000 dirigeants de PME à la recherche d'outils et de solutions pour affronter sereinement les défis qui les attendent dans les mois et les années à venir.
Impact PME avec la CPME, le premier événement entièrement dédié aux PME, le 5 novembre sur BFM Business.
Votre PME est-elle bien protégée contre les cyberattaques? Le stockage de vos données est-il vraiment en sécurité? Microsoft 365 garantit un haut niveau de sécurité à votre entreprise sur n'importe quel appareil. Grâce à une solution totalement intégrée et toujours à jour, développez votre business en toute sécurité.
Microsoft, partenaire de l'innovation digitale des PME en France.
Gérer un parc de véhicules, c'est une question de confiance. Avoir confiance, c'est utiliser un système de géolocalisation facilement depuis votre PC ou smartphone. La confiance, c'est de savoir que vos conducteurs sont en sécurité. Et à l'heure, s'ils sont en retard, la confiance, c'est de pouvoir en informer vos clients. Vous avez besoin de travailler en confiance? Téléphonez au 0800 73 73 73. Verizon Connect. La gestion de flotte par géolocalisation.
Intermarché vous propose d'écouter 12,90€.
Les petits Jean-Pierre, Claude et Bernard sont attendus par leur épouse en caisse centrale, merci.
C'est la foire au vin chez Intermarché. En ce moment, la bouteille d'AOP Saint-Émilion Grand Cru Château Trimoulet est à seulement 12,90€. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 29 septembre, bouteille de 75 centilitres, soit 17,20€ le litre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. À Toulouse, 107.2. À Bordeaux, 107.3. À Limoges, 94.7.
Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com.
À Tours, 89.7. À Orléans, 99.7. À Paris, 96.4. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Vichy, 91.8. À Lyon,
95.3. À Nancy, 104.1. À Strasbourg, 106.9.
BFM Business, la radio de l'info économique et financière.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Philippe Ries, ancien directeur de l'AFP à Tokyo. Merci d'être avec nous, Philippe Ries.
Merci de me recevoir.
Vous arrivez ici à Paris. Puis vous étiez, il y a quelques semaines, hein, cet été, en tous les cas, vous étiez à Tokyo, où vous avez passé 15 jours. Et vous avez beaucoup de contacts, vous avez rencontré, je crois même, vous écrivez un livre, non, avec Carlos Ghosn ?
Alors, je peux dire qu'il y aura une suite à Citoyens du Monde.
Voilà, le livre que vous aviez écrit lorsque vous étiez en poste à Tokyo. Donc, et que...
Évidemment, ce n'était pas exactement le livre que j'avais prévu, mais ça parlera du rôle de Carlos Ghosn dans la mondialisation de l'industrie automobile, de cette expérience absolument unique qu'a été l'Alliance, sur le sort de laquelle on peut maintenant s'interroger, mais enfin c'est une autre
question. Et bien justement c'est aussi une autre question, mais on va en parler. D'abord, comment va Carlos Ghosn, puisque vous le rencontrez, je crois que vous l'avez encore eu au téléphone il y a quelques jours.
Ah oui, nous parlons régulièrement.
Comment va-t-il?
Je l'ai vu 3 fois à Tokyo. Il est relativement libre de ses mouvements, bien qu'il soit sous une surveillance qui est partiellement illégale de la part de la police japonaise. Physiquement il va bien, il a fait le nécessaire pour récupérer physiquement. Évidemment, les conditions assez scandaleuses qui lui interdisent de vivre avec sa femme et même de lui parler l'affectent considérablement, mais sa famille est autour de lui. Mentalement et intellectuellement, il n'y a aucun problème. Il est très actif, très organisé. Assez affecté quand même par le fait que, en dépit des proclamations sur la présomption d'innocence, une grande partie de l'opinion et des responsables semblent le considérer comme coupable. Ce qu'il faut savoir, le plus difficile dans cette affaire, c'est que nous sommes dans une situation de communication totalement déséquilibrée. C'est-à-dire que l'accusation, donc Nissan,
il y a encore le dernier
Renault,
rapport qui démontre que les montants qui auraient été versés
atteignent
à peu près 300 millions d'euros.
Les auditeurs et les téléspectateurs comprennent, c'est que depuis le début de cette affaire, nous sommes dans une situation complètement déséquilibrée du point de vue de la communication, puisque lui ne peut pas parler.
Comme vous et le savez, on lui a reproché de parler, justement.
La dernière fois qu'il a annoncé une conférence de presse, il a été réincarcéré, réarrêté, et donc il est évidemment, et la famille et les avocats aussi, très très hésitants à prendre la parole. Donc c'est complètement déséquilibré. Et moi,
vous êtes là, si j'ose dire, puisque justement vous êtes quand même un peu l'avocat de Carlos Ghosn, enfin médiatiquement en tous les cas.
Je suis ni avocat ni porte-parole, je viens de dire quelle est mon analyse de cette situation, et je dis, ça c'est une question très très importante.
Philippe Ries, justement aujourd'hui l'actualité, c'est que Hirotu Sayikawa, qui aurait déclenché justement ces attaques contre Carlos Ghosn, doit démissionner parce que lui-même est rattrapé par cette question de rémunération, savoir si elles étaient légales ou illégales, et donc un successeur devrait être nommé, en tous les cas dans les prochaines heures. Comment est-ce que Carlos Ghosn...
Non, avant la fin du mois d'octobre, il va y avoir un intérimaire.
Il y a l'intérim, absolument, et on saura si c'est 2 ou 3.
Il va y avoir M. Yamauchi qui est intérimaire, mais comme on sait, les papes d'intérim parfois peuvent rester.
Mais qui est postulant, peut-être.
Donc, nous verrons. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est la différence de traitement entre M. Sayikawa et Carlos Ghosn. M. Sayikawa, alors il paraît que c'est à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire qu'il a touché ses 400 000 euros. Ça n'est pas du tout ce que dit Greg Kelly. Greg Kelly, qui est à l'origine, donc le co-accusé de Carlos Ghosn, qui est à l'origine des accusations contre M. Sayikawa, dit que M. Sayikawa était très, très, très attentif à ses conditions de rémunération. Mais bon, passons. Mais
le on n'est pas dans le même ordre de grandeur.
Mais la justice ne se prononce pas là-dessus. Il se trouve que ça n'était pas illégal. La question est de savoir si ce que Carlos Ghosn a fait était illégal.
Enfin, lui, il y a plusieurs dossiers.
Maintient que non. Mais là encore, nous sommes encore dans une situation très curieuse, qui est d'ailleurs la même en France, où il y a eu le fameux rapport Mazars. Personne n'a vu. On a eu droit à un résumé ou à des fuites. Pour le rapport Nissan, même chose, résumé et des fuites, qui grosso modo, disait à M. Saikawa, bon, bah, écoutez, vous partez, vous remboursez, et on en reste là. Mais encore une fois, personne ne demande que M. Saikawa aille en prison. Ce que beaucoup de gens demandent, en tout cas ce que moi je demande, c'est que Carlos Ghosn soit traité dans un système qui respecte les droits de la défense. Ça n'est pas le cas.
Est-ce que là, le procès de Carlos Ghosn, donc, il doit avoir lieu dans...
Première audience pour le premier chef d'accusation. Ouais. Il y en a quatre.
Printemps
en mars ou avril. Oui. C'est-à-dire que cette affaire peut durer très longtemps. Mais de toute façon... Je vais utiliser un « nous » collectif qui rassemble un certain nombre de personnes. Nous sommes persuadés qu'il y aura une décision politique. Il y aura une décision politique.
Ça veut dire quoi, une décision politique?
Ça veut dire que, à un moment donné...
Un accord entre la France et le Japon,
La France ne lève... Je l'ai déjà dit ici, je le répète, la France ne lèvera jamais le petit doigt pour Carlos Ghosn. Pour des raisons sur lesquelles je me suis déjà expliqué. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas s'éterniser là-dessus.
Donc
non. Tout simplement, quand le gouvernement japonais considérera que cette affaire est embarrassante pour des tas de raisons, surtout s'il ne trouve pas d'autres chefs d'accusation, il continue à chercher. J'ai cité à Tokyo un chiffre qui est très important. Il faut savoir que les sommes dépensées par Nissan, parce que le procureur reçoit tout de Nissan, les sommes dépensées par Nissan jusqu'à aujourd'hui pour chercher des motifs d'inculpation ou d'accusation contre Carlos Ghosn dépassent les 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. À rapporter aux 300 millions qu'on lui reproche d'avoir, entre guillemets, volé ou détourné, ce qui est complètement ridicule. Un simple exemple, il y a les fameux 10 milliards de yens qui ont été provisionnés, soi-disant, mais qui n'ont jamais été versés. L'affaire, la fameuse affaire de la banque Shinsei, donc les contrats à terme pour protéger le taux de change, ça n'a pas coûté un sou à Nissan. Les résidences à l'étranger, elles appartiennent à Nissan, qui les vend.
Après, vous connaissez les modalités. On ne va pas forcément rentrer dans ce détail-là, absolument. Mais là, vous avez raison, c'est qu'en l'occurrence, est-ce qu'il y a deux traitements pas ? L'opinion publique japonaise, est-ce qu'elle est lassée par ce dossier à répétition ? Ou
ça,
au contraire,
c'est très intéressant, parce que c'est une des questions que je lui ai posées, quand nous avons vu la première fois, nous avons dîné ensemble... deux jours après mon arrivée à Tokyo, je lui dis, mais comme il a été transformé au Japon en une sorte de demi-dieu, la manga, tout le monde connaît l'histoire, du jour au lendemain, la presse mainstream, la grande presse japonaise, a retourné sa veste complètement et a essayé d'en faire un affreux gaijin, seulement intéressé par l'argent, qui n'aimait pas le Japon, etc., etc. On connaît toute cette propagande. Donc je lui dis, mais quand vous sortez dans la rue, comment ça se passe ? Bon, les Japonais ne sont pas des gens très expressifs. De toute façon, l'opinion publique japonaise a à peu près la même confiance dans ses dirigeants que le reste de l'opinion dans le monde. Donc, degré de confiance extrêmement limité.
Non,
les gens sont très sympathiques avec lui. Il y a même certains qui demandent à faire des selfies. Et on le laisse tranquille. Mais je ne pense pas que l'opinion japonaise achète cette histoire.
D'accord. Est-ce qu'il est confiant ? Enfin, pas confiant, comment est-ce qu'il voit l'avenir de l'Alliance ? Puisque vous parlez aussi avec lui dans vos conversations, vous parlez de l'Alliance, de Renault-Nissan. Comment est-ce qu'il voit l'avenir de Renault-Nissan et de l'Alliance ?
Ben, il ne voit pas grand-chose, surtout il ne voit pas de vision. Si vous voulez, pour l'instant, Nissan, comme vous le savez, a annoncé des réductions d'effectifs assez massives, des sorties de certains marchés. Monsieur Saikawa, je ne sais pas quelle sera l'attitude du successeur, n'était pas un grand enthousiaste de l'électrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, c'est quand même manifestement l'avenir de l'industrie automobile. Non, il n'est pas vraiment optimiste. Les marchés semblent lui donner raison. Ouais, il faut savoir quand même que la perte de capitalisation cumulée des deux entreprises, je crois, dépasse les 25 milliards d'euros depuis que Carlos Ghosn a été judiciairement éliminé. Il est évidemment très inquiet pour les personnels et pour les employés de Nissan Renault.
Est-ce qu'il porte un jugement ? Parce que chez Renault, la page a été clairement tournée, la page Carlos Ghosn.
Elle n'est pas totalement tournée en ce sens que la purge de tous les éléments supposés, liés ou fidèles à Carlos Ghosn sont éliminés les uns derrière les autres.
Oui, mais donc la page est tournée.
Et on va assez bas dans la hiérarchie des gens dont on pense qu'ils étaient proches de Carlos Ghosn. Grosso modo.
Quel jugement porte-t-il sur Jean-Dominique Senard, son successeur ?
Non, il ne porte pas de jugement.
Non, mais il pourrait en porter un.
Non.
Non, moi, il n'en porte pas. Pas devant vous, en tous les cas.
Moi, ce qu'on me dit en interne, parce que j'ai quand même encore, il y a encore quelques paroles libres chez Renault, c'est que, disons, le Boston Consulting Group est partout. Mais on ne dirige pas des entreprises avec des consultants.
Bon, voilà, comme ça au moins, c'est sur la stratégie. Merci beaucoup, hein, Philippe Ries. Le livre, il doit paraître quand ?
Ah, le livre ne sera pas un livre fait rapidement sur un coin de table, comme certains
après
qui vont
procès.
Sortir.
Ouais.
Non, certainement bien avant. Mais le livre a une grande ambition, c'est en effet de replacer cette aventure personnelle et cette aventure industrielle dans un phénomène qui est la mondialisation de l'industrie automobile. C'est tout à fait passionnant. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis.
Merci.
C'est une très belle histoire. Et évidemment, on dira tout ce qu'il y a à dire sur l'affaire Ghosn elle-même.
Merci beaucoup Philippe Ries d'avoir été avec nous. À bientôt, dans un instant, on va parler à notre branca en l'occurrence, c'était ce qui s'est passé à la Banque Centrale Européenne, décision que vous avez pu suivre sur BFM Business, c'était jeudi. On en parle avec Jean Rabhi, directeur général de Natixis Investment Management, et puis on va parler quand même des principes de gestion responsable. Est-ce que c'est possible? On voit ça tout de suite.
Du lundi au jeudi sur BFM Business, plongez au cœur de l'écho. Focus, interview et débat, Inside, c'est 2 heures d'infos pour comprendre les enjeux de l'actualité du jour. Décideurs, entrepreneurs, experts et spécialistes de la rédaction confrontent leurs opinions et livrent leur analyse sur les grands sujets business de la journée. Inside, présenté par Karine Verniolle et Guillaume Paul, du lundi au jeudi, 18h-20h sur BFM Business. BFM Business, midi, l'heure H, avec Karine Vergne.
Voilà, c'était Edwige Chevrillon dans l'heure H. En l'occurrence, tout de suite, les infos avec Thomas Asportas, mais j'en profite pour saluer notre invité Jean Rabhi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur général de Natixis Investment Managers. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Il se passe des choses sur les marchés, le pétrole, la Banque Centrale Européenne. Mais pour l'instant, c'est Thomas Asportas qui nous fait un rapide rappel des titres.
Le pétrole, justement, qui fait la une de l'actualité à la mi-journée. Le pétrole qui bondit en bourse depuis ce matin après les attaques il y a 48 heures contre les installations pétrolières d'Aramco. Le pétrole qui gagne plus de 7% sur les marchés depuis ce matin. Les valeurs pétrolières Total, Technip FMC, Morel et Prom et CGG sont toutes en net progrès depuis ce matin. À l'inverse, les entreprises du transport et du transport aérien sont dans le rouge. Sur le fond de l'affaire, les rebelles yéménites ont affirmé dans la matinée qu'ils pourraient, je cite, attaquer à tout moment les autres installations pétrolières d'Aramco. Les États-Unis qui accusent l'Iran d'être derrière ces attaques, eh bien, se disent eux prêts à riposter très rapidement. Et puis une conséquence très concrète de cette attaque pour les particuliers, eh bien, c'est que les prêts à la pompe devraient augmenter très rapidement, de 4 à 5 centimes. C'est en tout cas ce que vient de déclarer l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières. Et puis alors, il y a d'autres valeurs qui sont secouées depuis ce matin sur les marchés français. Ce sont les titres liés aux tensions commerciales avec les États-Unis. Les entreprises françaises exportatrices du luxe et de l'aéronautique sont toutes sanctionnées après des informations selon lesquelles l'OMC a approuvé une demande américaine de nouveaux droits de douane sur les produits européens dans le dossier des aides publiques au secteur aéronautique. À la mi-journée, c'est Airbus, la plus forte baisse du CAC. Et puis pour finir, c'est aujourd'hui que le tribunal de commerce d'Evry se penche sur les offres de reprise pour Aigle Azur. Son porte-parole, Guillaume Foucault, affirmait ce matin à votre micro, Edwige, qu'une demi-douzaine de repreneurs seraient au tribunal aujourd'hui et que rien n'est joué. Deux projets semblent se détacher toutefois. D'abord, une offre combinée d'Air France et du groupe Dubreuil, et puis en face, une offre du transporteur étranger EasyJet. BFM Business midi 33, je vous redonne le CAC. À la mi-journée qui recule, qui abandonne 0,72% à 5614 points, et l'euro-dollar cède un petit peu de terrain. On abandonne 0,30% à un euro s'échange pour $1.1048.
Merci beaucoup, Thomas. Dans un instant, Jean Rabhi, patron Natixis Investment Manager, le pétrole, la BCE, les marchés, les taux bas. Beaucoup de questions à voir avec lui.
Carrefour. Chez Carrefour, c'est la foire au vin.
Le vin, moi, j'aime que les bulles.
Alors vous allez être servi. Dès demain, pour une bouteille de champagne Vranken premier cru brut nature et une Vranken spéciale brut achetée, la spéciale brute est offerte. Soit 31,90€ les deux bouteilles.
Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui.
Dès demain, rendez-vous dans vos hypermarchés Carrefour pour la foire au vin. Carrefour.
75 centilitres, stock limité. Détails produits et magasins ouverts dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Hey, oui,
Oui, vous, là, dans la voiture. Vous le voyez comment, l'avenir des transports en Picardie? Pour imaginer les transports de la Picardie de demain, le Courrier Picard vous propose Picavenir. Picavenir, c'est la nouvelle plateforme participative qui donne vraiment la parole à tous les Picards sur un nouveau thème chaque semaine. Rendez-vous dès maintenant sur picavenir.fr pour poser un regard différent, le vôtre, sur la Picardie de demain. Courrier Picard, l'actu nous rapproche.
La FIAC est une foire. La FIAC, c'est 200 galeries internationales d'art moderne et contemporain et du design rassemblées au Grand Palais, originaires de 29 pays et 70 villes. La FIAC, c'est aussi FIAC Projects, des sculptures, des installations au Petit Palais et sur l'avenue Winston Churchill. La FIAC est hors les murs, place Vendôme, au Jardin des Tuileries, au Musée de la Croix et place de la Concorde. La FIAC est aussi un festival avec des performances, des films et des conversations. La FIAC est à Paris du 17 au 20 octobre avec BFM Business.
Gérer un parc de véhicules, c'est une question de confiance. Avoir confiance, c'est utiliser un système de géolocalisation facilement depuis votre PC ou smartphone. La confiance, c'est de savoir que vos conducteurs sont en sécurité et à l'heure. S'ils sont en retard, la confiance, c'est de pouvoir en informer vos clients. Vous avez besoin de travailler en confiance ? Téléphonez au 0800 73 73 73. Verizon Connect. La gestion des flottes par géolocalisation.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un des plus grands gestionnaires de fonds, Jean Rabhi, directeur général de Natixis Investment Managers. Merci d'être avec nous. Vous gérez grosso modo 900 milliards de dollars ou d'euros ?
D'euros. 900 milliards d'euros à travers 23 sociétés de gestion différentes que nous contrôlons tous.
Oui, et donc la fameuse notamment H2O, mais ça sera pour la fin de l'interview avec ce qui s'est passé. Moi, il y a beaucoup d'interrogations, donc merci d'être là. Il y a évidemment ce qui se passe, la Banque Centrale Européenne, une espèce de bronca qui a eu lieu jeudi dernier, un peu du jamais vu. La presse allemande qui parle de Mario Draghi en disant le comte Draghi-là, en l'occurrence, avec les décisions qu'il a prises. On va revenir là-dessus, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe sur le marché du pétrole ? Quelles sont vos inquiétudes ? Est-ce que vous pensez qu'on va vers un nouveau choc pétrolier ou pas ?
Écoutez, moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas tant les conséquences immédiates de ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il y a des moyens d'y faire face. On attend encore de voir dans quelle mesure Aramco peut rapidement remettre la production en ligne. Il y a les réserves stratégiques. Il y a les réserves stratégiques non seulement des États-Unis, mais d'Aramco elle-même. Le vrai souci, et je pense que c'est plutôt les conséquences géopolitiques de cette situation. Est-ce qu'on aura une escalade de la tension au Moyen-Orient? Et ça, pour nous, c'est beaucoup plus important et fondamental que les conséquences immédiates. D'ailleurs, on le voit bien. Si vous regardez les futurs à 12 mois sur le pétrole, ils ont beaucoup moins bougé que le prix spot. Et ça, pour moi, ça donne une traduction que j'interprète que sur le plan technique, le marché peut imaginer qu'il y a une solution à court terme pour faire face à la baisse de production. En revanche, le vrai sujet, de mon point de vue, c'est que ça s'ajoute à beaucoup de bruit géopolitique qu'on a depuis de nombreux mois, voire de quelques années maintenant. Et ça, c'est pas dans le sens de marchés qui seront sereins.
Oui, on va quand même rappeler que c'est 6% de la production mondiale quand même qui ont été affectés ce week-end. Mais on a la même pression un peu que ce que... Pour ça, je rappelais lors de l'attaque sur le Koweït, en l'occurrence. Est-ce que malgré tout, vous dites, donc, pour l'instant, les marchés résistent, plus le facteur géopolitique. S'il se passe quelque chose encore demain, ce soir, là, on pourra commencer vraiment à s'inquiéter.
Je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure non plus. Je n'ai aucune prétention de pouvoir savoir ce que les différents acteurs pourraient faire. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a une escalation au Moyen-Orient, les grands intervenants n'ont pas franchi la ligne. J'espère que ce sera le cas également cette fois-ci. Mais évidemment, à travers cette attaque, on peut interpréter cela comme une poursuite du conflit larvé entre, d'une part, l'Arabie saoudite et, d'autre part, l'Iran.
Ouais. Est-ce que ça peut pénaliser l'introduction bourse d'Aramco?
Ben évidemment que sur le coup, oui, bien sûr. Oui. Mais à terme, est-ce que...
Le calendrier est assez bien choisi. Je pense que ce n'est pas complètement neutre.
Ah, c'est pas complètement... Ah non, oui. Mais oui. Il lise l'actualité.
Oui, oui.
L'IPO d'Aramco est en cours. Mais j'ai tendance à penser qu'Aramco, une grande entreprise de cette nature, a les moyens de rapidement remettre en place l'outil de production. Ils donneront des indications sur ce sujet-là, j'imagine, dans les prochains jours. Est-ce que ça peut retarder le timing de l'IPO? Moi, je ne connaissais pas le timing de l'IPO. On voit bien que les préparatifs s'accentuent. Est-ce que ça veut dire que l'IPO n'aura pas lieu? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut être retardée par rapport à un timing initial qu'on avait envisagé? Tout dépendra de la réponse à laquelle on arrivera en termes de rétablissement de l'outil de production, parce que, comme vous l'avez dit, c'est considérable. C'est la moitié de la production d'Aramco, c'est 5 à 6 % de la production mondiale.
Oui, donc c'est important. Jean Rabhi, je rappelle pour ceux qui vous écoutent, qui vous regardent, vous êtes Canadien, d'où cet accent, même si ça fait 30 ans que vous êtes en France, vous gardez cet accent délicieux et charmant. Banque Centrale Européenne, là, on va rester en Europe, si vous le voulez bien. Ça a été vraiment un peu, ça a été du jamais vu, jeudi, avec on dit que c'est la moitié, je ne sais pas si vous avez des informations, en tous les cas, des gouverneurs autour de la table qui étaient contre les mesures de relance, entre guillemets, de Mario Draghi. Je le disais en introduction, on a appelé dans la presse allemande, on l'a appelé le comte Draghi-là. Est-ce qu'il a voulu sortir en beauté? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, à votre avis?
Écoutez, moi, je ne veux pas spéculer sur les intentions des uns et des autres, est-ce que les uns et les autres ont dit. J'observe simplement que depuis une dizaine d'années, la Banque centrale a pris des mesures très accommodantes qui ont permis d'éviter le pire en Europe. J'observe aussi qu'on se retrouve après 10 ans de politique monétaire très, très accommodante, dans une situation où l'inflation ne repart pas en Europe. On a une croissance qui demeure à un niveau trend-like autour de 1 %. On n'est pas en récession, mais ça ralentit à nouveau. Et on se retrouve à avoir quasiment épuisé tous les outils de politique monétaire. Je pense que ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est une série de mesures additionnelles qui touchent la plupart des sujets, la plupart des outils qui ont été utilisés au cours des 10 dernières années, sans nécessairement en changer profondément de...
Oui, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est...
Ben, c'est toute la question qu'on peut se poser.
Eh ben, c'est la question que je vous pose, Jean-Rabhi. Ben, c'est pas moi qui gère 900 milliards d'euros. Hein?
On est dans la loi des diminishing returns, comme on dit. L'impact sur la croissance, quelque part, sera par définition faible, puisqu'on a des mesures de cette nature depuis une dizaine d'années, on en est là où on en est. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le fait que la politique fiscale doit prendre relais maintenant pour relancer cette croissance. De là, le débat en Allemagne, notamment. C'est aussi ce que M. Draghi a dit jeudi dernier. La politique fiscale doit prendre relais. Est-ce que ce sera le cas? Bien là, c'est les décisions des différents États. Nous, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on a des clients qui se retrouvent maintenant face à un environnement de taux négatif pour une longue durée, avec une visibilité notamment jusqu'à 2022-2023. Je veux juste vous donner une statistique. Aujourd'hui, il y a environ 50 trillions de dollars d'obligations émises dans le monde. Un tiers était maintenant à taux négatif. C'est quand on regarde les obligations hors dollars, on est à plus de 50 %. On s'en va vers un environnement où la quasi-totalité de la zone euro sera à taux négatif en termes d'obligations gouvernementales. On a aujourd'hui au-dessus d'un trillion d'obligations corporate qui sont à taux négatif. Pour nos clients qui ont des échéances et des engagements à long terme, c'est un vrai problème. Et pour nous, ben, un vrai défi.
Justement, je continue sur la presse allemande et la comte Dracula accusé de sucer le sang des épargnants allemands. C'est ce qu'il fait en l'occurrence?
Écoutez, là, je ne me prononcerai pas sur les.
C'est un peu ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, non, mais bien sûr.
Qu'on veut, ce qui est souhaité par une politique d'intérêt non négatif, c'est évidemment d'encourager l'investissement et d'encourager l'épargne. C'est ça qu'on dit. Hein? Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que ça a eu l'impact qu'on aurait espéré sur la croissance. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que c'est la démonstration que ces outils de politique monétaire ont atteint leurs limites? Je ne sais pas. Visiblement, M. Draghi pense le contraire, mais il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur est-ce qu'on n'est pas vraiment
dans un moment... Oui, mais vous, quand on est le deuxième gestionnaire de fonds européen, est-ce que vous estimez qu'effectivement la politique monétaire est dans la passe aujourd'hui, que les outils, ils ont fait leur temps, qu'on aurait dû en trouver d'autres?
Nous, ce qu'on dit, c'est que d'une part, on regrette que cette politique de taux négatif, ou en tout cas, on craint que cette politique de taux négatif peut avoir un effet contre-productif. Si jamais on passe le cap et que ça devient une traduction...
Le cap de quoi?
Que ça passe d'une mesure qui est faite pour susciter la croissance à une mesure qui crée de la méfiance et crée une perte de confiance. Parce que quand vous faites quand vous avez des taux d'intérêt négatifs et que vous continuez à souscrire à des obligations gouvernementales ou même corporate à taux négatifs, qu'est-ce que vous dites? Vous dites je n'ai pas de meilleure utilisation de mon argent. Vous dites que vous n'avez pas de projet que vous pouvez dans lesquels vous pouvez investir. Vous dites que vous n'avez pas de titres ou de projets d'investissement ou de classes d'actifs qui vous apparaissent susceptibles d'être intéressantes et de générer un rendement. Cela peut créer de la méfiance. Et si on passe dans ce cap, ça devient contre-productif. Je ne sais pas si on y est.
On n'y est pas très très loin en l'occurrence. Hein?
On devrait pas. On y est plus proche qu'on y était avant. Ça c'est clair.
Ouais. Donc oui c'est intéressant. C'est-à-dire que vous dites pourquoi est-ce qu'à ce moment-là vous n'investissez pas dans les investissements des entreprises?
C'est ce qu'on fait.
Est-ce que vous en avez? Mais parce que certains disent aujourd'hui on a vu des enquêtes qui montrent que les entreprises qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent leurs actions plutôt que d'investir. Ça commence à se sentir hein, dans les chiffres officiels. Est-ce que vous c'est ce que vous observez?
Ben nous. Ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, dans un contexte où la classe d'actifs obligataires a des taux négatifs, n'offre plus de rendement immédiat ou très, très, très faible, eh bien, avec nos clients, on réfléchit à des structures alternatives. Ce qui veut donc dire des structures où est-ce qu'on peut capitaliser sur la prime des liquidités. Mm-hmm. Et on a beaucoup de dialogues avec des compagnies d'assurance, des fonds de pension qui ont des obligations à moyen terme dans lesquelles le taux d'actualisation était à 6-7 % qui devient de plus en plus difficile de maintenir. Et c'est ça le défi pour nous, c'est d'être innovant pour essayer de créer ce couple risque-rendement qui soit acceptable pour nos clients. Mais je pense qu'on va inexorablement vers une augmentation de la part des actifs de nos clients qui sont investis dans les catégories alternatives.
Forcément. Vous avez vu cette banque française franco-suisse Lombard-Odier qui demande à certains de ses clients demande à ses clients de payer les dépôts qu'ils font chez eux.
C'est la logique ultime de
notre banque. Oui, bien sûr,
la logique ultime. Jusqu'à maintenant beaucoup
j'en ai même pas fouillé, vous voyez, mais c'est
non pas souhaité faire cela. Mais on arrive à la limite de l'exercice.
Mais vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire?
Non. Pardon? Non, nous, c'est pas. Moi, je.
Oui,
c'est nous,
pas
on gère l'argent des autres.
D'accord,
on n'a pas de dépôt.
Oui, c'est ça. Donc bon, oui, c'est. Mais sur le plan de la logique, c'est
la logique illogique. Ultime. C'est la logique ultime.
C'est la logique.
Parce que pour des raisons commerciales, peu de banques commerciales ont souhaité le faire.
Oui. Comment on se sort de cette situation, Jean Rabhi?
Ça, c'est la bonne question. Je le savais, je serais peut-être pas ici sur ce plateau.
Pourquoi?
C'est très difficile à voir comment on va sortir. On est dans une période qui n'a pas de précédent. Après 10 ans de stimulus, on se retrouve à une croissance faible. Mm-hmm. On a plusieurs gouvernements de la zone euro qui sont quand même à la limite de l'exercice en termes de politique fiscale. Il faut le reconnaître. Certains gouvernements sont encore à 3-4 % de déficit. On a une inflation qui ne repart pas. Peut-être qu'il y aura un choc externe qui relancera cette dynamique qui permettra ensuite de normaliser les taux. On avait espoir. Vous savez, l'an dernier, quand j'étais sur ce plateau, on spéculait sur le moment où la Banque centrale européenne commencerait à normaliser les taux de la même façon que les États-Unis l'ont fait. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est dans un environnement à grande visibilité, au moins à 3-4 ans sur les taux en Europe, et on est reparti sur une baisse des taux aux États-Unis. On est dans un environnement difficile pour tous les gérants d'actifs et pour tous les porteurs d'actifs. Et comment on va s'en sortir? Aux États-Unis, j'ai tendance à penser qu'il y a encore le cocktail politique fiscale et agilité de l'économie. Et ils sont pas à des taux d'intérêt négatifs. En Europe, c'est plutôt un point d'intérêt.
Est-ce que vous pensez, parce que là aussi c'est un peu la grande question, est-ce qu'il faut une relance budgétaire? Est-ce que certains appellent
Beaucoup de gens l'appellent.
Aux réformes, c'est ce qu'a appelé Jean-Claude Trichet sur ce même plateau la semaine dernière, les réformes en disant, mais aussi il faut que les gouvernements prennent leurs responsabilités et peut-être il y ait une forme de relance budgétaire.
C'est ce dont tout le monde parle, on verra bien ce qui se passe.
Oui, mais est-ce que pour vous ça serait un élément déterminant positif?
C'est un élément positif si cette relance budgétaire est orientée vers l'investissement, vers la croissance.
Oui.
L'hélicoptère monnaie, on n'y croit pas trop, nous.
Quel regard vous avez sur la France à part de parler du Brexit?
Remarquablement résiliente, il faut le reconnaître. Nonobstant les événements du début de l'année, la confiance demeure. Je pense que c'est le reflet aussi d'une force de travail active qui est assez industrieuse, qui est très compétente, qui est très bien formée. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a une relance formidable de l'innovation et de l'entrepreneuriat en France. Et je pense que c'est le reflet de cette éducation qu'on prodigue ici et qui est, dans le contexte d'aujourd'hui, assez porteur pour créer de la valeur.
Vous avez les équipes à Londres ?
Oui, nous avons les équipes à Londres.
Vous allez les rapatrier à Paris avec la
Nous n'avons pas besoin de rapatrier parce que nous sommes très très bien établis dans la zone euro et nos équipes à Londres ont toutes les autorisations nécessaires et tout le contexte nécessaire pour continuer à œuvrer même après une éventuelle modification du statut du Royaume-Uni, je dis bien éventuel, parce que vous savez que j'ai un point de vue différent là-dessus, pour continuer à œuvrer dans le marché britannique, qui restera un marché important de la gestion d'actifs, quoi qu'il arrive.
Le Canadien et Américain et Français que vous êtes, ils pensent quoi du Brexit ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accord, il n'y aura pas d'accord ? Est-ce que vous pensez que certains commencent à le dire en disant attention, les États, la Grande-Bretagne peut devenir un concurrent très dangereux, devenir une sorte de Singapour européen ?
Moi, je vais vous dire, vous savez que j'ai été public sur ce sujet-là. Je persiste à croire qu'on attache une trop faible probabilité au fait que le Brexit n'aura pas lieu. Le Parlement britannique, visiblement.
Mais là, vous continuez à avoir cette position.
J'ai ce point de vue.
Ah ben, vous avez
Après
le droit.
Ça, chacun le traduit, nos gérants le traduisent comme ils le souhaitent en termes de selon leur propre point de vue, en termes d'investissement. Mais moi, je pense qu'on accroche une probabilité trop faible. Quand on regarde le Parlement britannique, il a rejeté 3 fois le deal de Mme May, qui était une sortie en douceur. Il ne veut pas d'un Brexit sans accord dans la précipitation. Quelle est la sortie? Je persiste à croire qu'il peut y avoir un espace politique qui s'ouvre pour remettre le sujet en jeu et le remettre soit dans les mains du peuple britannique, soit par une élection, soit par un nouveau référendum. Mm-hmm. Je pense que cette probabilité-là, on lui accorde une part trop faible. Je pense vraiment, quand on regarde les faits, qu'il y a une vraie divergence de vue au sein de du peuple britannique et ils sont incapables d'avoir une majorité qui se coalise autour du sujet. Ça fait 3 ans et demi qu'on en parle.
Est-ce que ça serait une vraie catastrophe pour vous s'il n'y avait pas d'accord?
Et qu'on sortait, on sortirait.
Ben, enfin, c'est eux qui sortiraient.
On prévoit le pire. Oui. Je pense que c'est un négatif pour l'Europe dans son ensemble.
Vous pensez que ça sera négatif
pour
l'Europe.
Royaume-Uni, négatif pour l'Europe.
Et en quoi c'est négatif pour l'Europe?
Écoutez, on est beaucoup plus fort avec le Royaume-Uni que sans le Royaume-Uni. On est plus fort, pas beaucoup plus fort. Deuxièmement, on aura une période de transition qui ne sera pas facile à gérer. On la gérera parce qu'on est bien préparé, je pense. Beaucoup d'entreprises ont fait ce qu'il fallait. Après ça, dans 10 ans, où est-ce qu'on sera? Je ne sais pas. Mais c'est dommage qu'on perde beaucoup de temps à discuter depuis 3 ans et demi de ce sujet, alors que l'Europe a beaucoup de défis. Et l'Europe aurait pu avoir une opportunité importante de prendre une place plus grande sur l'échelle internationale, avec les États-Unis qui se retirent et la Chine qui considère que c'est maintenant dans son intérêt national de prendre beaucoup de place. Et c'est dommage que le débat sur le Brexit nous ait empêché de prendre toute la place que nous aurions pu prendre.
On dit un mot à propos justement de Londres, de votre filiale H2O. Est-ce que on sait qu'il y a une grosse hémorragie, gros problème, donc ça c'était en juin dernier. On dit que maintenant vous n'avez pas pu récupérer, vous avez récupéré que la moitié peut-être des fonds qui étaient partis avec cette crise. Où est-ce que vous en êtes?
Écoutez, je pense que ce qu'il faut retenir de H2O, notamment quand on parle des flux ou des flux sortant ou entrant, c'est que la promesse de liquidité a été maintenue. Les porteurs qui ont souhaité sortir ont reçu les sous qu'ils avaient investis.
Oui, avec une décote?
Même dans la très, très, très grande majorité des cas, avec une performance positive sur l'année. Mmh. On calcule toujours la performance par rapport au 1er janvier, toujours un peu ça. Aujourd'hui, on se retrouve à une situation où est-ce que H2O a remis en place ses frais d'entrée parce qu'on avait des problèmes de capacité qu'on avait identifiés l'an dernier et sur lesquels H2O avait acté en mettant en place des droits d'entrée. Ces droits d'entrée sont à nouveau en place. Je pense que c'est un signe aussi que la situation s'est normalisée.
La décollecte s'élèverait à 6,3 milliards.
H2O
entre le 18 juin et le 3 septembre, est-ce
H2O
que c'est exact ou pas?
H2O sur ce sujet, je n'en dirai pas plus.
Pour vous, les leçons à tirer de ça? Est-ce que des investissements un peu trop hasardeux?
Mais écoutez, je pense qu'il faut reconnaître que la stratégie global macro de H2O, qui est très très grand principal moteur de performance, a continué à très bien performer. Il y a eu des débats sur la qualité et la nature du portefeuille liquide qui était en place dans le respect des limites réglementaires. Moi, s'il y a une leçon à tirer de cela, c'est que nous allons avec H2O voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. C'est tout. On prend la mesure de ce qui est arrivé.
Ouais. Jean Rabhi, puis ça fera le lien un peu avec le fil de cette interview. C'est tenu, là, il y a quelques jours, sous l'égide de l'ONU, la grande réunion autour des principes pour l'investissement responsable. En tout, je crois qu'il y a 2372 signataires, 90 000 milliards d'actifs. Vous êtes partenaire, en l'occurrence, de cette conférence, de ces principes pour l'investissement responsable. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà de l'affichage? Qu'est-ce que ça change au jour le jour, au quotidien, dans votre gestion?
Écoutez, je pense qu'il y a un truc fondamental qui a changé. C'est que maintenant, nos clients et nous, en tant que gérants d'actifs, on considère qu'intégrer des éléments non financiers dans l'analyse d'investissement, c'est important. Et ça va dans le sens, évidemment, de la protection de l'environnement, d'une bonne pratique sociale et d'une bonne gouvernance. Chaque société de gestion peut les intégrer d'une façon différente. Parfois sous forme d'exclusion, parfois sous forme d'analyse de risque, parfois même sous forme d'orientation de la politique d'investissement dans ce qu'on appellerait même l'impact investing. Beaucoup d'initiatives en cours, sans doute besoin un peu de rationalisation, mais au moins ces sujets-là, qui sont importants pour nous aujourd'hui et pour nos générations futures, sont maintenant au cœur de la problématique de la gestion.
Oui, mais ça compte pour 0,5% dans votre critère d'investissement, ça compte pour 5% tous ces critères responsables, ces critères environnementaux.
Écoutez, ben, c'est justement ce que j'ai dit à la conférence la semaine dernière. On se focalise peut-être un peu trop sur les statistiques, combien d'investissements, combien d'AUM, combien de fonds sont gérés avec ces critères en tête. En ce qui concerne l'intelligence, c'est très, très important. Pour d'autres, c'est toujours quelque chose qui est en devenir. Ce que je note, c'est qu'il y a une attitude fondamentale qui est changée sur ce sujet-là. Mm-hmm. On est passé de ce qui était niche il y a quelques années à quelque chose qui est maintenant au cœur de la problématique de gestion de nos investissements. Je note aussi que ça demande une approche multilatérale. Il n'y a pas que les gérants d'actifs, il n'y a pas que les asset owners qui ont un rôle à jouer. Je pense aussi que les gouvernements et les organisations supranationales sont importantes dans ce dispositif qui est transfrontalier.
Ouais, et c'est pour ça que c'était sous l'égide de l'ONU. Et puis les ONG ont un rôle très, très important aussi. Merci beaucoup, Jean Rabhi, d'avoir été avec nous, directeur général de Natixis Investment Managers. Voilà, c'est la fin de leur âge, bien sûr. On se retrouve demain, 8h15. Tiens, mon invité sera Frédéric Mazzella, président, co-président de France Digital. On parlera de comment faire pour qu'il y ait plus de licornes en France. On parlera de ce Next 40 et on parlera, bien sûr, du Digital Day. C'est demain et après-demain. Bonne journée.